Les podcasts du Collège de France, philosophie.
Mesdames et messieurs, bonjour. Comme d'habitude, je vous présente, pour le corriger, le plan du cours. Je viens d'apprendre que il y a une erreur de date pour le 13, le 20 et le 27 février. Ça devrait être le 12, le 19 et le 26, ce qui sera corrigé, bien sûr, la semaine prochaine. C'est un plan du cours modifié, puisque je le modifie un peu chaque semaine en écrivant. Avant d'arriver à l'ordre du jour, la structure de l'argumentation, je voudrais soulever une question sans y apporter une réponse nette et ferme, dont je n'ai pas eu le temps de parler la semaine dernière, à savoir la suivante. À supposer, acquise l'idée que l'argumentation, le vote et la négociation constituent, en effet, ce que j'ai appelé les formes élémentaires des décisions collectives, peut-on dire, et en quel sens, que l'un de ces modules serait le plus fondamental? Une approche possible de cette question serait de se demander par quel module initial le groupe choisit d'utiliser par la suite tel ou tel module. Ainsi, la décision de demander l'unanimité dans les jurys, décision qui peut être considérée comme exprimant une préférence pour l'argumentation sur le vote, pourrait elle-même se prendre par un vote majoritaire au Parlement. La décision de faire approuver un accord salarial négocié par un vote de la base ouvrière peut elle-même résulter d'une négociation préalable, comme ce fut le cas en Norvège en 1935. Et en y réfléchissant, on trouverait sans doute des exemples de sept autres combinaisons possibles. Il pourrait sembler, et je tends à le penser, que l'argumentation soit plus fondamentale que le vote ou la négociation, puisque l'utilisation des deux derniers requiert une prise de conscience des intérêts communs, prise de conscience qui ne saurait venir, je pense, que de l'argumentation. Cette proposition présuppose pourtant que le vote, pour ne parler que de lui, ait été établi de manière délibérée et en pleine conscience de cause. Il existe pourtant, à ma surprise, je dois le dire quand je l'ai découverte, une petite littérature biologique qui cherche à démontrer et à expliquer l'émergence du vote majoritaire chez les animaux par des adaptations individuelles, notamment par ces deux auteurs, Conrad et Roper. Comme le démontrent ces auteurs, des groupes d'animaux, que ce soit des abeilles ou des gorilles, prennent foi des décisions collectives par vote majoritaire et même parfois aux majorités qualifiées, notamment quand il s'agit de synchroniser la recherche de nourriture. Chez les gorilles, par exemple, il semble que le départ d'un site pour un autre se fasse quand le volume agrégé des grognements atteint un seuil qui indique une volonté majoritaire, un peu comme le vote par cri pratiqué à Sparte. Et je note au passage que si le vote par cri ou grognement permet, à la différence du vote ordinaire, de tenir compte de l'intensité des préférences, il a évidemment l'inconvénient de désavantager les individus à faible puissance vocale. Ce qui, normalement, n'est qu'un désavantage dans les discours, pas dans les votes. Bon, pour les gorilles, je vous renvoie à cet article très intéressant. Plutôt qu'une explication par la sélection au niveau du groupe, type d'explication dont tendent à se méfier les biologistes, Conrad et Roper proposent une explication en termes purement individuels. Et si des phénomènes semblables avaient lieu chez les premiers hominidés, la thèse de la priorité de l'argumentation s'en trouverait affaiblie. Il est inutile, je le pense, de vous signaler le caractère tout à fait spéculatif de ces remarques. Dans le reste de cette conférence et lors des deux séances prochaines, je vais donc parler du rôle de l'argumentation dans les décisions collectives. À la différence du vote et des négociations, l'argumentation ne se prête pas facilement à l'analyse formelle et à la modélisation, bien que les tentatives ne manquent pas. Les deux livres qui font autorité dans la matière, la rhétorique d'Aristote et le traité de l'argumentation par Chaim Perelman et Lucy Albrecht-Tuteka s'imposent surtout par la richesse des exemples et la finesse des distinctions conceptuelles. Aujourd'hui donc, je ferai un certain nombre de remarques générales sur le sujet de l'argumentation. La semaine prochaine, je vais considérer comment la raison, qui est supposée être seule à l'œuvre dans l'argumentation, se conjugue néanmoins avec les intérêts et les passions. Trichotomie classique des moralistes français. Et après la vacance scolaire le 5 mars, j'examinerai l'argumentation, l'encadrement institutionnel de l'argumentation, dont notamment la publicité ou le secret des débats, ainsi que les modalités de la prise de parole. Argumenter, c'est donner des raisons en faveur d'une proposition factuelle ou normative. Arrêtons-nous un instant sur cette dichotomie pour contester ou du moins questionner une affirmation de Perelman. Ayant d'abord fait une distinction entre les arguments qui portent sur le réel et ceux qui portent sur le préférable, il continue ainsi. Tout ce qui, dans l'argumentation, est censé porter sur le réel se caractérise par une prétention de validité pour l'auditoire universel. Par contre, ce qui porte sur le préférable, ce qui détermine nos choix et qui n'est pas conforme à une réalité préexistante, sera lié à un point de vue déterminé que l'on ne peut identifier qu'avec celui d'un auditoire particulier, si vaste soit-il. Je n'entends pas nier la distinction importante entre le factuel et le normatif, le réel et le préférable, en fait, j'y insiste. Je pense néanmoins que cette distinction ne coïncide pas, comme semble vouloir le dire Perelman, avec la distinction entre une réalité préexistante et un auditoire préexistant. Dans certains cas du moins, les arguments qui portent sur le préférable sont offerts avec la prétention d'être valables pour tous. Tout comme il existe des personnes qui nient l'existence de la Shoah, il peut y avoir des personnes qui, tout en acceptant qu'elle a eu lieu, en nient l'immoralité. Pour la plupart d'entre nous, l'une et l'autre négation sont également absurdes, bien que non pas absurdes pour la même raison. En faisant cette remarque, je me place sur le terrain même de Perelman, c'est-à-dire le terrain sociologique et non sur le terrain métaphysique. Affirmer que dans un débat qui porte sur les fins ou les valeurs, les orateurs ont souvent une prétention de validité pour l'auditoire universel n'équivaut pas à affirmer l'existence de faits moraux objectifs. Dire qu'argumenter consiste à donner des raisons ne fait évidemment que déplacer le problème, car qu'est-ce qu'une raison ? Dans le cas d'une proposition factuelle, on sait plus ou moins ce qui compte comme raison. Il s'agit d'autres propositions de fait auxquelles nous attachons déjà une certaine probabilité et qui, par une logique déductive ou inductive, tendent à rendre certaine ou plus probable la proposition en question. Dans le cas de l'induction, de loin le plus important dans les situations qui vont nous concerner, les raisons sont rarement contraignantes. Les membres d'un jury, par exemple, peuvent disposer des mêmes données factuelles et en tirer des conclusions opposées. Les uns diront que s'il avait vraiment commis le meurtre, il aurait caché l'arme, tandis que les autres diront que il a laissé l'arme pour qu'on dise justement qu'il l'aurait cachée si c'était lui le coupable. Chaque récit offre une certaine intelligibilité aux faits. Les problèmes de l'inférence inductive sont légion. Même si j'étais compétent dans la matière, ce cours ne serait pas l'occasion d'en parler. Pour mes fins, il suffit de souligner le caractère non contraignant du raisonnement inductif. La multiplicité des narrations possibles et plausibles est reflétée, par exemple, dans l'existence de nombreuses paires de proverbes ou de dictons opposés, dont chacun est susceptible de servir d'hypothèse auxiliaire dans la construction d'un récit. À titre d'exemple, car il en existe beaucoup, je citerai les paires suivantes. « D'une part, ces raisins sont trop verts, d'autre part, chose défendue, chose désirée. D'une part, le semblable attire le semblable, d'autre part, les contraires s'attirent. D'une part, tel père, tel fils, d'autre part, à père avare, fils prodigue. D'une part, loin des yeux, loin du cœur, d'autre part, l'absence rend les êtres plus chers. Et enfin, d'une part, je pense que ce sont des dictons latins, se rappeler une infortune et lui redonner vie. D'autre part, il est plaisant de se ressouvenir des périls passés. Ainsi, les jurés, qui cherchent à construire un récit qui rende compte des données brutes dont ils disposent, peuvent-ils arriver à des conclusions diamétralement opposées selon les hypothèses auxiliaires auxquelles, de manière plus ou moins consciente, ils font appel. Je reviendrai sur ce point vers la fin de cette conférence. Les membres d'un jury n'ont en principe qu'un seul but, arriver à la vérité. On a vu la semaine dernière que dans la pratique, les choses sont un peu plus compliquées, mais il s'agit là de nuances somme toute assez mineures et, du point de vue où je me place aujourd'hui, non pertinentes. Si un juré demande à un autre pourquoi il croit à la culpabilité de l'accusé, il serait incohérent de répondre « puisqu'il me faut rentrer à temps pour préparer le dîner ». Cela dit, on peut se demander si les raisons de croire sont forcément liées à la recherche de la vérité. Si quelqu'un me demandait pourquoi il doit croire à la vérité de telle ou telle proposition, serait-il toujours incohérent de répondre « puisqu'y croire vous fera du bien ». C'est quand même la structure du pari pascalien. Même en admettant, ce qui n'est pas évident, que le désir du salut offre une raison de croire, il faudrait démontrer, ce qui est moins évident encore, que cette raison est capable d'avoir une efficacité causale. De manière générale, en effet, croire qu'il serait avantageux d'avoir une certaine croyance ne suffit pas à l'établir. Considérons par exemple le fumeur qui voudrait arrêter de fumer, sachant qu'il encourt un risque de 10% de mourir d'un cancer du poumon, s'il continue, mais qui n'y arrive pas. Il sait que s'il croyait que le risque de développer un cancer du poumon était certain, il arrêterait. Il a donc intérêt à y croire. Or, les croyances se commandent d'en amont, par les raisons qui les justifient, non pas d'en aval, par les conséquences qui en découlent. Et comme l'a démontré Bernard Williams dans son article justement célèbre, on ne peut pas à la fois croire que P et croire que la croyance que P est une conséquence de la décision de croire que P. C'est un projet incohérent. Je ne prétends pas, bien sûr, que le raisonnement de Williams suffise à réfuter l'argument du pari, qui compose des complications additionnelles qu'il serait inutile de discuter ici. Dans les situations de la vie courante, il est néanmoins clair qu'il n'est pas cohérent d'offrir comme raison de croire les profits qu'on tirerait du fait de croire. Cela vaut non seulement pour les profits instrumentaux, comme dans le cas du fumeur, mais également pour les profits intrinsèques, comme dans le cas du mari jaloux, qui aimerait croire que sa femme lui est fidèle. Considérons maintenant le rôle des raisons normatives dans l'argumentation. Comme je l'ai déjà souligné plusieurs fois, il n'y a pas d'analogue pour les propositions normatives du critère de vérité pour les propositions factuelles. Dans la pratique, on constate pourtant que les participants dans ce processus de décision collective font valoir des arguments normatifs qui prétendent sinon à la vérité, du moins à une forme de validité intersubjective. Pour, dans la phrase de Perelman, l'auditoire universel. Ces arguments forment, me semble-t-il, trois catégories distinctes. Premièrement, il s'agit d'arguments ayant une prémisse normative et une prémisse factuelle, dont s'ensuit une conclusion normative. Et je vous rappelle à ce propos le schéma que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Lorsqu'il y a un désaccord sur ce qu'il faut faire dans ces situations données, on peut demander à autrui de rendre explicites les préférences fondamentales et les croyances causales sur lesquelles il s'appuie. Qu'est-ce que tu veux obtenir par ça? N'y a-t-il pas d'autres moyens d'y arriver? Et souvent, en effet, nos préférences portant sur les moyens découlent d'habitudes et de préjugés plutôt que d'une analyse de la situation. Bien que banal du point de vue théorique, ce cas de figure se rencontre très fréquemment dans la vie courante et constitue, je pense, une forme majeure de l'argumentation normative. Deuxièmement, on observe souvent des arguments conditionnels sur les fins. On fait observer à un interlocuteur que la position qu'il adopte sur une question donnée diffère de celle qu'il adopte sur une autre question, qui pourtant ne diffère en rien d'essentiel de la première. Et je prends quelques exemples de Perelman. D'abord, il cite Aristote, « Si les vendre n'est pas honteux pour vous, les acheter ne l'est pas non plus pour nous. » D'abord, ensuite Quintilien, « Ce qu'il est honorable d'apprendre, il est honorable aussi de l'enseigner. » Et enfin, la Bruyère condamne les chrétiens qui assistent au spectacle, puisque les comédiens sont damnés pour donner ce même spectacle. Dans un discours célèbre sur les bourreaux, les comédiens et les juifs, le 23 décembre 1789, Clermont-Tonnerre reprit le raisonnement de la Bruyère en lui donnant une forme symétrique et plus adéquate. Pour ce qui est des comédiens et des spectacles, il faut ou les proscrire ou les soustraire à l'infamie. Rien d'infâme ne doit subsister au-dessus de la loi et rien de ce que la loi permet n'est infâme. Il en dit autant des bourreaux. Je prends un autre exemple. Pour beaucoup de personnes, l'idée de prélever, à l'usage de la transplantation, les organes d'un individu décédé dans un accident de circulation a quelque chose de révoltant. Pour persuader les proches du peu de bien fondé de leur objection, on peut alors leur demander s'ils s'opposeraient également à une autopsie, qui est aussi une procédure invasive, dans les circonstances d'une mort suspecte. Serait-il plus acceptable de constater les causes de la mort d'une personne déjà décédée que de sauver la vie des 5 personnes qui recevraient les 2 reins, le foie, le cœur et les poumons du mort? S'ils répondent par la positive à cette question, ils se mettent dans l'obligation d'expliquer pourquoi il existerait une différence moralement pertinente entre les 2 cas. Et je cite sur ce point une remarque de Perelman. Celui qui s'interdit de tuer un être vivant peut être acculé à une incompatibilité s'il admet également qu'il faut soigner les malades souffrant d'une infection. Va-t-il ou non se servir de la pénicilline qui risque de détruire un grand nombre de microbes? Et dans ce cas, la différence moralement pertinente entre les 2 principes saute aux yeux. Mais dans d'autres cas, comme par exemple le cas de la transplantation et de l'autopsie, elle peut être plus discutable. Ceux qui s'opposent au prélèvement d'organes pour la transplantation, tout en acceptant les autopsies, diraient peut-être que celles-ci n'entraînent pas la désintégration radicale du corps. Et pour certains croyants, ce fait peut constituer une différence moralement pertinente. Pour d'autres, il n'a aucune pertinence. Dans ce cas, donc, il s'agit d'une discussion inconditionnelle sur les fins. Afin de creuser cette distinction entre les arguments conditionnels et les arguments inconditionnels, je vais m'interroger assez longuement sur l'interruption volontaire de la grossesse. À l'exception de certaines personnes rigoristes, nous acceptons tous l'usage des contraceptifs dont l'effet est d'empêcher la conception. En ce qui concerne les moyens qui entraînent l'avortement dans les 24 heures qui suivent la conception, il y a déjà une plus grande différence d'opinion, et cette différence va en croissant lorsqu'on passe à l'interruption de la grossesse avant 3 mois, pour diminuer ensuite lorsque s'approche le moment de la naissance. Certains arguments contre l'interruption volontaire de la grossesse sont formulés dans le langage des fins inconditionnelles. Dans un article célèbre, Judith Jarvis-Thompson présente d'abord l'argument de ceux qui s'opposent à cette interruption volontaire. Toute personne a droit à la vie. Donc le fœtus a droit à la vie. Sans doute la mère a-t-elle le droit de décider ce qui doit advenir de et dans son propre corps. Tout le monde admettrait cela. Mais le droit à la vie d'une personne est certainement plus fort et plus urgent que le droit de la mère à décider ce qui doit advenir de et dans son corps, et il emporte donc sur ce dernier droit. Ainsi, le fœtus ne peut pas être tué, nul avortement ne peut être pratiqué. Il se propose ensuite de réfuter cette interdiction inconditionnelle de l'avortement, en se servant d'un exemple hypothétique qui, bien que fantastique, n'a rien de physiquement impossible. Vous vous réveillez un matin et vous vous trouvez dos à dos dans votre lit avec un violoniste inconscient, un violoniste inconscient célèbre. On a diagnostiqué sur lui une maladie rénale fatale et la Société des Amis de la Musique a trouvé que vous êtes le seul à posséder le type sanguin adéquat pour le sauver. Ils vous ont donc kidnappé et la nuit dernière, le système du drainage du violoniste a été relié au vôtre de manière à ce que vos reins puissent être utilisés pour extraire les poisons de son sang et du vôtre. Le directeur de l'hôpital s'adresse maintenant à vous en vous disant « Écoutez, nous sommes désolés que la Société des Amis de la Musique vous ait fait cela. Nous ne l'aurions jamais autorisé si nous avions été au courant. Mais maintenant c'est fait et le violoniste est branché sur vous. Vous débranchez, reviendrez à le tuer. Mais ce n'est pas très grave, cela ne durera que 9 mois. Il sera alors guéri de sa maladie et l'on pourra le débrancher sans danger. » J'imagine, dit-elle pour sa propre part, que vous considéreriez ce discours comme outrageant, ce qui suggère que quelque chose ne va vraiment pas dans l'argumentation en apparence plausible que j'ai mentionnée il y a un instant. Avant de continuer, je vous signale que la traduction française fait appel à une victime masculine, le texte anglais étant neutre en ce qui concerne son sexe. Ainsi, le devoir d'une femme de garder son enfant pourrait s'assimiler au devoir d'un homme de servir de rein artificiel pour une autre personne. Nier l'existence du second devoir, tout en affirmant le premier, pourrait donc constituer une forme de discrimination. Je reviendrai tout à l'heure sur cette idée. Si l'on se demande s'il existe des différences moralement pertinentes entre une grossesse non désirée et le raccordement involontaire à une autre personne, il y en a une qui saute aux yeux. Une grossesse non voulue est normalement le résultat d'actions intentionnelles librement choisies en connaissance de la possibilité d'une grossesse, tandis que le raccordement au corps du violoniste est entièrement involontaire. On pourrait donc proposer d'accorder le droit de l'avortement aux femmes enceintes à la suite d'un viol. À cette proposition, Judith Thompson répond par la remarque suivante. Ceux qui s'opposent à l'avortement sur la base que j'ai mentionnée peuvent-ils faire une exception pour une grossesse consécutive à un viol? Certainement, ils peuvent dire que les personnes ont un droit à la vie seulement si elles ne viennent pas au monde du fait d'un viol. Ou ils peuvent dire que toutes les personnes ont un droit à la vie, mais que certaines ont un droit inférieur à d'autres, en particulier que celles qui viennent au monde du fait d'un viol ont un droit inférieur. Mais ces propositions ont une totalité assez déplaisante. La question de savoir si vous avez un droit à la vie tout court ou la mesure dont vous en jouissez ne doit pas dépendre du fait que vous soyez ou non le produit d'un viol. Et de fait, les personnes qui s'opposent à l'avortement, sur la base que j'ai mentionnée, ne pratiquent pas cette distinction et ne font donc pas d'exception en cas de viol. Selon Judith Thompson, la proposition selon laquelle des personnes ont un droit à la vie seulement si elles ne viennent pas au monde du fait d'un viol est moralement inacceptable. Il s'agit là d'un jugement inconditionnel de sa part. En revanche, sa propre défense du droit à l'avortement à la suite d'un viol prend la forme de l'argument conditionnel où l'on essaie de convaincre l'interlocuteur en faisant appel à son jugement concernant un autre cas. Donc, pour reconstruire le raisonnement de Judith Thompson, première prémisse, selon une intuition morale primitive, c'est-à-dire non susceptible de justification ultérieure, le raccordement involontaire pendant 9 mois au corps d'une autre personne pour sauver la vie de celle-ci est inacceptable. Deuxième prémisse, il n'y a aucune différence moralement pertinente entre le refus de l'avortement à la suite d'un viol et le raccordement involontaire au corps d'une autre personne pour sauver la vie de celle-ci. Et on conclut que le refus de l'avortement à la suite d'un viol est moralement inacceptable. Je vous présenterai maintenant un argument offert par Cass Sunstein, célèbre juriste américain, pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Selon lui, interdire le droit à l'avortement serait une forme de discrimination et en tant que telle une violation du critère de l'impartialité qui doit guider toute décision politique ou légale. Étant juriste plutôt que philosophe, Sunstein cherche à démontrer qu'interdire le droit à l'avortement serait contraire à la première section du 14e amendement à la Constitution des États-Unis, section qui est comme suit. Tout individu né ou naturalisé aux États-Unis est soumis à leur juridiction et citoyen des États-Unis et de l'État où il réside. Aucun État ne pourra faire appliquer des lois qui restreindraient les privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis. Aucun État ne pourra non plus priver une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale, ni refuser à quiconque relève de sa juridiction une égale protection des lois. Le terme clé étant l'égale protection. À première vue, cette clause semblerait protéger le droit à la vie du fœtus plutôt que le droit à l'avortement de la mère, à condition que le fœtus soit déclaré une personne au sens juridique. C'est en effet un argument très fréquemment utilisé par les oppositions au droit à l'avortement. Selon Sunstein, pourtant, l'idée d'égale protection comporte une comparaison entre les femmes et les hommes, non pas entre la mère et le fœtus. Nier aux femmes le droit à l'avortement serait perpétuer un régime de discrimination systématique des femmes. Pour appuyer cette proposition, Sunstein évoque d'abord une objection possible selon laquelle le service militaire obligatoire pour les hommes constituerait l'équivalent du devoir des femmes de porter leurs enfants à la naissance. Et je vous citais assez longuement sa réponse à cette objection. En réalité, le fait que le service militaire soit réservé aux hommes rend nécessaire une formulation plus précise de mon assertion fondamentale, mais lorsqu'elle se trouve ainsi reformulée, l'exemple ne constitue plus un contre-exemple, mais en vient au contraire à confirmer cette assertion. Ce qui est central, c'est que les clauses légales assurant que seuls les hommes sont appelés font partie d'un système de stéréotypes sur les rôles des deux sexes caractérisés par une division tranchée et légalement produite entre les sphères domestiques et publiques, les femmes occupant la première et les hommes la seconde. Vu sous ce jour, les restrictions légales de la possibilité d'avorter sont un élément de la création légale d'une sphère domestique où les femmes tiennent leur rôle traditionnel et principalement ou exclusivement ce rôle. Le service militaire réservé aux hommes est une pièce dans la création légale d'une sphère publique où les hommes tiennent leur rôle traditionnel et principalement ou exclusivement ce rôle. Cela suggère que du point de vue de l'égale protection des deux sexes, le problème posé par la restriction légale de la possibilité d'avorter n'est pas seulement qu'elle s'impose au corps féminin, mais aussi qu'elle le font d'une façon qui est inextricablement entremêlée avec l'imposition par la loi et donc par l'État de différents rôles aux hommes et aux femmes, différents rôles qui font partie de la citoyenneté de seconde zone, second rank citizens, je pense, des femmes. Plutôt que de l'ébranler, le fait que seuls les hommes sont appelés contribue à affirmer l'assertion selon laquelle les lois sur l'avortement constituent une forme de sélectivité inacceptable et donc incompatible avec le 14e amendement. Il n'est pas de mon propos ici de commenter la plausibilité de cet argument, qui m'intéresse surtout des deux points de vue suivants. D'abord, parce qu'il illustre l'importance du principe de non-discrimination ou d'impartialité dans les arguments normatifs. Vous vous rappelez que Judith Thompson fait appel à ce même principe lorsqu'elle se prononce contre l'idée selon laquelle les enfants qui viennent au monde du fait d'un viol ont un droit inférieur. Ensuite, parce que le même principe de non-discrimination peut appuyer, on vient de le voir, la conclusion opposée à celle que défend Sunstein. Il s'agit là d'un cas tout à fait général. Dans l'argumentation normative, l'impartialité du raisonnement est une qualité essentielle, nécessaire, mais non suffisante. Un argument normatif partial est presque une contradiction dans les termes. Il est en quelque sorte incohérent de faire valoir comme argument le simple intérêt de l'orateur à telle ou telle décision. Un conseiller municipal qui disait « La nouvelle route doit passer par ma maison parce que sa valeur en serait augmentée », non seulement ne serait pas prise au sérieux, mais son argument, entre guillemets, aurait l'effet de rendre moins probable l'emplacement désiré. Un argument ne compte comme tel que dans la mesure où il est formulé d'une manière ou d'une autre en termes anonymes, impartiaux et universels. Ainsi, le même conseiller pourrait affirmer sans incohérence « La nouvelle route doit passer par ma maison parce que c'est l'emplacement qui serait le moins coûteux à la communauté ». Comme je l'ai longuement expliqué dans mon cours sur le désintéressement il y a 2 ans, une attitude impartiale ou désintéressée n'est pas forcément une attitude contre-intéressée. Et le conseiller pourrait même affirmer, sans incohérence, que puisque le choix entre les deux routes indiffère à tout le monde, sauf moi, on doit choisir l'emplacement qui me profite le plus. Car, en le disant, il peut s'appuyer sur une proposition entièrement impartiale, à savoir, lorsque tous les membres d'une communauté, sauf un, sont indifférents entre 2 options, il faut choisir celle qui est préférée par ce membre. Que dans l'occurrence, ce membre soit lui, n'a aucune pertinence. L'idée d'impartialité, bien que cruciale, ne fournit pas en elle-même une théorie normative. Elle constitue plutôt un critère de second ordre que l'on peut appliquer aux théories prétendument normatives pour déterminer si elles le sont effectivement. Les théories racistes ou sexistes, par exemple, ne satisfont pas ce critère, du moins du point de vue objectif. Il faut pourtant admettre que dans le passé, certains penseurs ont refusé le droit de vote aux personnes noires ou aux femmes pour la même raison que qui nous le fait refuser aujourd'hui aux mineurs, à savoir leur capacité cognitive supposée plus faible. Sans doute les intérêts des groupes dominants et leurs préjugés y étaient souvent pour beaucoup, mais il serait injustifié d'imputer ces mobiles à tous ceux qui, dans le passé, ont défendu des opinions que nous rejetons aujourd'hui. Même Condorcet n'est arrivé que lentement à ses opinions anti-esclavagistes et féministes. Du point de vue objectif ou rationnel, la discrimination par la taille ou par le poids dans l'embauche d'agents de police ou d'hôtesses d'air ne constitue pas forcément une violation du critère de l'impartialité, pas plus que ne le fait l'imposition d'un âge minimal pour voter. Il s'agit là de discriminations qui servent le bien commun. Dans l'expression de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Par contre, aucun critère rationnel ne justifie l'usage du critère de la beauté dans l'embauche de speakerines. Mais ce dernier cas présente pourtant une complexité. Même lorsque les décideurs ne partagent pas eux-mêmes le culte absurde de la beauté qui prédomine dans les sociétés occidentales, ils prennent leurs décisions en fonction du fait que beaucoup de téléspectateurs en sont les victimes, tout en étant aussi, bien sûr, les auteurs. S'ils veulent conquérir l'audience la plus large, ils ne peuvent pas agir comme si ces préjugés répandus n'existaient pas. Aux États-Unis, un problème semblable, moins frivole peut-être, se pose à propos des adoptions interraciales. La question est de savoir si les autorités qui décident du placement des enfants adoptifs doivent tenir compte du fait qu'un enfant de race noire ou blanche serait plus heureux avec des parents de même race, en vertu du racisme ambiant de la société américaine. Du point de vue de l'utilitarisme, dont le caractère impartial est incontestable, cette pratique raciste et discriminatoire semblerait s'imposer. Les cours américaines ont néanmoins décidé qu'elle est illégitime. Autrement dit, l'article 1 de la Déclaration n'implique pas la proposition inverse, car une distinction sociale peut ne pas s'imposer, même quand elle tente à promouvoir l'utilité commune. Il convient maintenant de préciser en quel sens l'utilitarisme est impartial et en quel sens il ne l'est pas. D'une part, lorsqu'on maximise la somme des bonheurs individuels, la doctrine affirme que chacun doit compter pour un et personne pour plus d'un. Si l'on fait abstraction du fait que la maximisation n'est pas vraiment faisable, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, cette formule est une expression classique de l'attitude impartiale. Tandis qu'on peut du moins imaginer qu'il serait cohérent avec l'utilitarisme ou avec la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens d'accorder le double vote aux personnes éduquées, l'idée d'accorder un poids deux fois plus grand à leur bonheur serait inacceptable. D'autre part, comme je l'ai fait également observer, à la suite de John Rawls, tout le monde, ou presque, s'accorde maintenant pour penser que l'utilitarisme manque d'impartialité en ce qu'il ne respecte pas le caractère séparé des individus et le droit de chacun d'entre eux d'être considéré comme une fin en lui-même et non seulement comme un moyen pour la maximisation de la somme des bonheurs individuels. Et reprenons l'exemple du prélèvement d'organes d'un seul individu pour sauver la vie de 5 autres et supposons maintenant qu'il s'agisse d'un individu vivant et en pleine santé. Selon l'utilitarisme, il serait justifié de tuer cet individu afin de sauver la vie des 5 autres. Même si les utilitaristes, car il en reste toujours quelques-uns, tendent à rejeter cette implication de leur théorie, leurs arguments tendent à avoir un caractère ad hoc qui les rend moins persuasifs. La raison pour laquelle cette implication est inacceptable est évidemment le droit de chacun à la vie. Sous l'Ancien Régime, comme le remarque quelque part Tocqueville, les droits étaient des privilèges associés à un statut particulier. Selon la conception moderne des droits, ils sont universels et associés au statut de membre de l'humanité. L'impartialité des droits réside donc dans leur caractère universel. Il convient pourtant d'ajouter que ce caractère universel et impartial des droits n'assure pas qu'ils sont garantis à tous de manière inconditionnelle. Comme je vais l'expliquer maintenant, la possession effective d'un droit est souvent sujette à des conditions préalables que l'individu en question doit et peut remplir. Dans les cas les plus simples, il s'agit de conditions d'âge que le sujet remplit automatiquement en devenant majeur. Le droit de voter en est un exemple typique. Dans d'autres cas, la satisfaction des conditions dépend d'actions entreprises par le sujet, que ce soit pour acquérir le droit, comme dans le poll tax des États américains dans le Sud, ou dans un autre but dont la réalisation engendre le droit comme un sous-produit. Par contre, il serait inacceptable de rendre la possession du droit conditionnel aux actions entreprises par d'autres personnes. Pour citer encore une fois Judith Thompson, la question de savoir si vous avez un droit à la vie ne doit pas dépendre du fait que vous soyez ou non le produit d'un viol. Ainsi, les conditions sous lesquelles on peut accéder à un droit doivent être sous le contrôle de l'individu. Il faut que l'action en question soit à la portée effective, l'action par laquelle on établit cette condition, soit à la portée effective de tous. Et prenons encore une fois le droit de voter. Les premiers constituants français, en se défendant contre l'accusation d'une contradiction entre le suffrage limité, établi par la Constitution, et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, offrir la justification suivante. C'est une insertion anonyme dans le moniteur, mais sans doute assez représentative. Quoique l'exercice du droit de citoyen dépende de quelques conditions, le droit en lui-même et l'aptitude à l'exercer n'en existent pas moins dans tous les citoyens sans exception. Il y a une grande erreur à confondre ainsi le droit avec les conditions requises pour l'exercer, une incapacité relative et passagère avec l'inhabilité absolue et permanente. L'inactivité momentanée d'un citoyen qui peut aisément la faire totalement cesser, avec un assujettissement dont il ne pourrait être délivré que par l'emploi de la force. Il n'y a pas de citoyen français que quelques années de travail ne puisse rendre habile à remplir toutes les fonctions publiques. Si le droit de vote est réservé à ceux qui paient un impôt modeste, comme ce fut le cas dans la Constitution de 1991, le droit est en effet accessible à toute personne capable d'exercer et de trouver un emploi, ce qui exclut pourtant les personnes handicapées et les chômeurs. Si le sens est très élevé, comme il était par exemple sous la monarchie de Juillet, le caractère universel du droit de vote devient évidemment une farce. Et si enfin le droit de vote exige qu'on fasse preuve d'un certain niveau d'éducation ou de la capacité à parler la langue nationale, tous les citoyens sont en principe capables de faire un effort pour y arriver. Or, puisque les théories du droit offrent peu de précision en ce qui concerne le degré d'effort qu'on peut raisonnablement demander aux citoyens, il reste une zone d'indétermination. Et comme je l'expliquais dans un cours précédent, on ne comblerait pas la lacune en passant au vote, car il faudrait d'abord déterminer qui aurait le droit de voter pour déterminer qui sera admis au suffrage. Je viens de mentionner et de discuter deux manières de fonder l'impartialité, par l'utilité sociale et par les droits. Dans la suite du cours, je ne prendrai pas l'idée d'utilité sociale au sens de l'utilitarisme classique, mais en un sens plus vague, celui du bien commun ou de l'intérêt commun. Du point de vue où je me place ici, le vague du concept est en effet essentiel, car il permet d'expliquer pourquoi il peut substituer des désaccords sur la nature de l'intérêt commun, même lorsqu'il n'y a aucun désaccord sur les faits. Et je cite quelques exemples, il y en a un. Évidemment, un nombre infini d'autres. Quel poids faut-il donner aux intérêts des générations futures? C'est une question très controversée, beaucoup discutée ces jours-ci à propos du réchauffement climatique et les remèdes qu'on peut y porter. Est-ce que l'héritage culturel ou la biodiversité possède une valeur intrinsèque qui est indépendante du plaisir ou du profit qu'en tirent les individus? Mon ancien professeur de philosophie en Norvège, Arne Næss, qui vient de mourir, l'inventeur de l'écologie profonde, disait qu'il était immoral de polluer l'univers en envoyant des déchets des centrales nucléaires dans l'espace. C'est un autre exemple. Convient-il, par exemple, de subventionner les places de l'opéra en utilisant l'argent des contribuables dont la grande masse n'y va jamais? De même, quels sont les sacrifices qu'on peut demander aux citoyens afin de sauvegarder une espèce d'oiseau en voie d'extinction? Quel est le risque socialement acceptable d'un accident d'une centrale nucléaire? Il n'existe pas d'algorithme politique qui permette de répondre avec précision à ces questions. Si le désaccord persiste, il faut passer au vote. Puisque la multiplicité de manières raisonnables de comprendre l'idée d'impartialité est une donnée essentielle dans toute situation argumentative, je vais vous proposer quelques autres exemples. De manière générale, toute théorie égalitaire satisfait le critère d'impartialité. Traiter les individus de manière égale équivaut à les traiter d'une manière impartiale. Or, il convient toujours de se demander égalité de quoi ? Comme l'ont notamment montré Amartya Sen et G.A. Cohen, on peut vouloir égaliser les revenus, les niveaux de bien-être, l'accès des individus au bien-être, les capacités de fonctionnement des individus et bien d'autres choses encore. Et je vous ai déjà donné, je pense, il y a quelques semaines, un exemple de cette ambiguïté, à savoir le débat à la Convention fédérale à Philadelphie concernant la représentation des États au Sénat. Les États peu peuplés firent appel à l'idée d'une représentation égale des États, tandis que les États plus peuplés insistèrent sur l'idée du pouvoir égal de chaque citoyen, ce qui aurait amené une représentation proportionnelle. Dans ce cas, le soupçon d'un usage stratégique de l'impartialité se présente évidemment avec une certaine force, et j'y reviendrai longuement la semaine prochaine. Concernant l'ambiguïté de la notion d'égalité, on peut également citer Marx. C'est un texte de la critique du programme de Gotha. Dans la première phase du communisme, le droit égal reste toujours grevé d'une limite bourgeoise. Le droit du producteur est proportionnel au travail qu'il a fourni. L'égalité consiste ici dans l'emploi comme unité de mesure commune. Mais un individu l'emporte physiquement ou moralement sur un autre. Il fournit donc dans le même temps plus de travail ou peut travailler plus de temps. Et pour que le travail puisse servir de mesure, il faut déterminer sa durée et son intensité, sinon il cesserait d'être unité. Ce droit égal est un droit inégal pour un travail inégal. Il ne reconnaît aucune distinction de classe, parce que tout homme n'est qu'un travailleur comme un autre, mais il reconnaît tacitement l'inégalité des dons individuels et par suite de la capacité de rendement comme des privilèges naturels. C'est donc dans sa teneur un droit fondé sur l'inégalité, comme tout droit. Le droit, par sa nature, ne peut consister que dans l'emploi d'une même unité de mesure, mais les individus inégaux, et ce ne seraient pas des individus distincts s'ils n'étaient pas inégaux, écho de Leibniz, ne sont mesurables d'après une unité commune qu'autant qu'on les considère d'un même point de vue, qu'on ne le saisit que sous un aspect déterminé, par exemple, dans le cas présent, qu'on ne les considère que comme travailleurs, rien de plus, et que l'on fait abstraction de tout le reste. D'autre part, un ouvrier est marié, l'autre non, l'un n'a plus d'enfants que l'autre, etc., etc. À égalité de travail, à par conséquent à égalité de participation au fonds social de consommation, l'un reçoit donc effectivement plus que l'autre, l'un est plus riche que l'autre, etc. Pour éviter tous ces inconvénients, misstand, le droit devrait être non pas égal, mais inégal. Mais ces défauts, c'est toujours misstand, sont inévitables dans la première phase de la société communiste, telle qu'il vient de sortir de la société capitaliste après un long et douloureux enfantement. Le droit ne peut jamais être plus élevé que l'état économique de la société et que le degré de civilisation qui y correspond. Je vous signale que par l'usage du terme misstand, défaut, Marx propose ici un raisonnement normatif du type même que souvent il récuse comme appartenant à l'idéologie bourgeoise uniquement. Donc c'est comme il. Ailleurs dans le texte, il propose en effet le principe de rémunération du travail selon les besoins du travailleur, de chacun selon sa capacité, à chacun selon ses besoins. Il faut pourtant croire que là aussi, il s'agit d'un principe égalitaire, à savoir l'égalité du niveau de satisfaction des besoins. Puisque, sauf à accepter l'idée utopique de l'abolition de la rareté des biens, il me semble que l'égalité du niveau de satisfaction des besoins constitue l'interprétation la plus plausible de cette phrase célèbre. Mais la littérature récente, dont notamment les travaux de Cohen, a démontré la complexité de l'idée du satisfaction, du niveau de satisfaction égal des besoins des uns et des autres. Est-il juste, par exemple, de satisfaire les besoins dont la satisfaction serait très coûteuse pour la communauté, au même degré que le besoin qui se laisse satisfaire à moindre coût. Et pour illustrer l'ambiguïté de l'idée d'impartialité par un dernier exemple, sur lequel je reviendrai la semaine prochaine, on va considérer un dialogue entre deux membres d'un conseil municipal lors d'un débat sur la conduite à tenir à la suite d'une catastrophe naturelle dans une commune avoisinante. La question est de déterminer si le conseil doit voter une assistance financière et de quelle importance aux victimes de cette catastrophe. Et je suppose que le premier membre du conseil à prendre la parole est un utilitariste et que le second est un partisan de la théorie de l'équité, fairness, selon laquelle chacun doit contribuer au bien commun si et seulement si les autres s'en font autant. Donc voilà ce petit dialogue entre l'utile et l'équitable. L'utilitariste. À la suite de ce tremblement de terre qui a mis beaucoup de personnes dans le besoin, je constate que parmi les autres communes avoisinantes, il y en a très peu qui font des donations pour les soulager. Puisque dans ces circonstances, toute contribution aura un grand impact, il est très important que nous en fassions une. À quoi l'avocat de la théorie de l'équité répond comme suit. Pourquoi devrions-nous faire un sacrifice unilatéral? L'équité demande seulement que nous fassions une contribution quand les autres communes avoisinantes le font aussi. L'utilitariste répond, vous prenez les choses à l'envers, car étant donné le fait de l'utilité marginale décroissante de l'argent, c'est précisément quand les autres communes donnent peu que notre donation aura le plus grand impact et donc que notre obligation de donner sera la plus forte. Bien que chacun des interlocuteurs se rapporte à la notion d'impartialité, ils le font par rapport à des groupes de référence distincts. Pour l'utilitariste, c'est le monde nécessiteux. Pour son vis-à-vis, c'est l'ensemble des autres donneurs potentiels. Ainsi, ils arrivent à deux conclusions diamétralement opposées, les unes aux autres. Et je vous rappelle que le principe d'égale protection, affirmé dans le 14e amendement de la Constitution américaine, permettent également de justifier des conclusions opposées selon que l'on compare la mère au fœtus ou les femmes aux hommes. Dans l'un ou l'autre de ces deux exemples, je pense pour ma part personnelle que l'un des arguments opposés, et je ne dirai pas lequel, est plus plausible que l'autre, ce qui n'empêche pas que les deux puissent revêtir les apparences de l'impartialité. Je vous signale que le raisonnement de l'utilitariste dans ce dialogue s'appuie non seulement sur la prémisse normative selon laquelle on doit soulager la détresse, mais également sur la prémisse causale de l'utilité marginale décroissante de l'argent. Dans l'hypothèse, invraisemblable, d'une utilité marginale croissante, l'utilitariste serait arrivé à la même conclusion que son interlocuteur, à savoir que l'on donnait beaucoup quand les autres donnent beaucoup. Inversement, si les deux arrivaient à des conclusions opposées, la racine de leur divergence pourrait se situer dans leurs croyances causales différentes et non pas, comme je l'ai supposé, dans leur conception respective de l'impartialité. Donc, comme vous le rappelez, à propos de l'exemple du bicaméralisme dans l'Assemblée constituante, il est souvent difficile de démêler où est le désaccord sur la causalité et où est le désaccord sur les préférences fondamentales. Pour résumer sur ce point, dans ce processus d'argumentation, l'impartialité joue un rôle à la fois crucial et ambigu. Il est crucial puisqu'un appel ouvert et explicite aux intérêts partiaux de l'orateur, avec en même temps la négligence des intérêts d'autrui, constituerait une sorte de contradiction pragmatique. Un tel appel pourrait aussi signaler que l'orateur s'est déplacé du terrain de l'argumentation pour se mettre sur celui de la négociation. Mais le rôle de l'impartialité est aussi ambigu, en ce sens que l'idée se prête à de nombreuses interprétations, susceptibles de suggérer des conclusions opposées. Je voudrais conclure en revenant sur une autre source d'ambiguïté dans l'argumentation, relevant celle-ci des croyances causales plutôt que des conceptions normatives. Je vous ai cité tout à l'heure l'exemple des paires de proverbes opposés pour indiquer comment le sens commun peut s'accommoder d'une proposition causale donnée aussi bien que de son contraire. Je voudrais maintenant supplier ces illustrations anecdotiques par une discussion un peu plus poussée. Aux États-Unis, c'est un fait bien connu que dans un procès, chacune des parties est le plus souvent capable de trouver un expert docile pour appuyer ses propositions. Par exemple, on trouve toujours un expert docile pour affirmer le caractère nocif ou innocent d'un produit pharmacologique, une hausse ou une baisse d'un prix de vente que susciterait une certaine pratique commerciale, très importante dans les cas antitrust, l'aptitude supérieure à la garde d'enfants de l'un ou de l'autre des parents et, de manière tout à fait générale, le caractère significatif ou accidentel d'une corrélation statistique apparemment solide. À ma connaissance, qui est limitée, la situation en France est sur ce point moins sérieuse, bien que l'actualité nous rappelle le danger d'une confiance excessive dans les experts psychologues en matière de pédophilie. En revanche, il ne fait aucun doute qu'en France, comme partout ailleurs, chaque formation politique comporte ses conseillers économiques et son think tank qui lui fournissent des justifications d'apparence objective ou scientifique des propositions qu'elle avance. Cette observation banale ne reflète aucun cynisme de ma part. La causalité de la vie sociale est tellement complexe qu'il est normal que de nombreuses idées se confrontent sur le marché des idées. Et normal également que les partis politiques et les scientifiques s'attirent les uns les autres en fonction de leurs convictions sincères. Il ne faut d'ailleurs pas penser que « anything goes », que l'on puisse dire ou faire dire n'importe quoi, car il existe ce qu'on pourrait appeler dans l'argumentation une zone de respectabilité qui constitue en même temps une zone d'indétermination. L'indétermination cognitive ne résulte pas seulement de la présence d'expertises opposées, mais souvent de l'absence de toute expertise concernant une question qui exige néanmoins que l'on prenne une discussion. Selon l'expression de Alvin Weinberg, on peut caractériser de trans-scientifique les questions qui se laissent exprimer dans le langage de la science sans que la science puisse y répondre. Et je vais citer un exemple que j'emprunte à Gian Domenico Maggiore. Un exemple typique est la détermination des effets sur la santé de faibles niveaux de radiation. On a calculé que pour déterminer par l'expérimentation directe, avec une fiabilité de 95%, si une dose de radiation par rayon X de 150 mrm augmenterait la mutation spontanée des souris de 0,5%, 8 milliards de souris seraient nécessaires. Les contraintes temporelles et matérielles rendent une telle expérience en pratique impossible. De même, le choix d'une fonction dose-effet pour déterminer la dose pratiquement sans danger d'une substance toxique doit être traité à présent comme une question trans-scientifique. Il y a littéralement des milliers de fonctions mathématiques qui concordent toutes également avec les données expérimentales, mais il n'y a pas aujourd'hui de fondement scientifique solide qui permettent de choisir entre les différentes possibilités. Pourtant, le choix d'une fonction particulière a un effet majeur sur les décisions de réglementation. Il est utile ici, je pense, dans la continuation de ce raisonnement, de distinguer les décisions sous le risque, sous l'incertitude et sous l'ignorance. Dans les décisions sous le risque, les conséquences possibles de chaque option sont connues, ainsi que leur probabilité de se produire. Dans les décisions sous l'incertitude, on connaît les conséquences possibles, mais non pas leur probabilité. Ce sont des known unknowns. Et enfin, dans les décisions sous l'ignorance, les conséquences possibles sont incomplètement connues. Et ce sont les fameux Unknown Unknowns de Donald Rumsfeld. Euh, Dans les décisions sous le risque, on peut fonder la décision sur une connaissance des probabilités, et bien que celles-ci ne suffisent pas à déterminer la décision uniquement, puisque la décision dépend également du degré de l'aversion au risque des décideurs et de leur taux d'escompte futur, ces probabilités permettent néanmoins de réduire le rôle de l'arbitraire et du subjectif dans la décision. Il en va autrement dans les décisions sous l'incertitude, où les probabilités ne sont pas connues ou connues en partie seulement. Ah, bon, j'ai dépassé le temps là. Je continue jusqu'à la fin du paragraphe et je reprends la semaine prochaine. Dans les décisions sous l'incertitude, où les probabilités ne sont pas connues ou connues en partie seulement, il en va autrement. Aucun expert sérieux ne serait prêt à offrir une évaluation quantitative de la probabilité d'explosion d'une bombe terroriste dans le métro parisien, d'une attaque israélienne contre l'Iran ou d'une attaque iranienne contre Israël. C'est pourquoi les militaires se fondent le plus souvent sur une estimation des capacités d'un ennemi potentiel et non pas sur une estimation de ses intentions. Dans le domaine des risques médicaux, on fait souvent appel au principe de précaution qui, lui aussi, est supposé nous guider dans les choix sous l'incertitude. Or, un moment de réflexion devrait suffire à nous convaincre que ce principe est trop fort pour servir de guide, puisqu'il nous amènerait à prendre des précautions coûteuses, tous azimuts, contre d'innombrables risques dont la plupart ne vont jamais se réaliser. Donc, je vais reprendre brièvement cette distinction la semaine prochaine et je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.